RCF.
Rencontre avec Didier Hoffmann, pasteur stagiaire, aujourd'hui dans Témoin. Après un parcours de plus de 25 ans en entreprise, il se prépare à devenir pasteur. Comment passe-t-on d'une vie professionnelle dense vers cette mission ? Comment est née sa vocation ? C'est ce que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui dans cette émission.
Témoin, quand la foi se raconte.
Bonjour Didier Hoffmann.
Bonjour Sophie.
Alors vous êtes stagiaire pasteur à l'EPUDF, l'Église protestante unie de France, en dernière année, au sein de la paroisse Vitrolles Marseille Nord, Terre Nouvelle. Merci d'avoir pris ces quelques instants aujourd'hui pour nous parler un peu de votre parcours. D'ailleurs, je me disais, après ce stage, vous serez directement pasteur ?
Pas tout à fait.
Il vous reste encore du chemin à parcourir.
Y a un long cheminement qui, je pense, est très utile. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne me permettrai pas de juger pour mes collègues. Mais oui, c'est un cheminement donc, qui commence par 5 années d'études universitaires à l'Institut protestant de théologie. Moi, j'ai suivi un cursus sur le site de Paris. Et à l'issue de ces 5 années et de l'année de stage qui est la 5e année, qui se constitue un peu comme une année en alternance avec une semaine par mois de reprise à la fac, on accède pour 2 années au statut, entre guillemets, de pasteur proposant. Donc, il est encore une période au cours de laquelle on bénéficie d'un accompagnement particulier. Alors, on est pasteur de notre paroisse. Là, aujourd'hui, je suis stagiaire, donc observateur, accompagnateur, entre guillemets, de Georges Fauché, le pasteur de Marseille-Nord. Lorsqu'on devient proposant, on est le pasteur de la paroisse, mais voilà, encore avec un parcours d'accompagnement par la commission des ministères, avec un certain nombre de relais potentiels locaux qui peuvent nous aider en cas de difficulté. Et ce n'est qu'à l'issue de ces 2 années, si tout est validé, de part et d'autre d'ailleurs, mm-hmm. C'est une validation qui est attendue de la part de l'Église et de la part du proposant, qu'intervient la reconnaissance de ministère ou l'ordination selon si on est plus réformé ou luthérien.
Alors vous serez pasteur quand ?
Alors si tout se passe bien, j'ai pas fait le calcul à l'avance, pardon, 2024, fin du stage, donc 2 ans après 2026, à l'automne 2026.
Et vous savez pas du tout où vous irez ?
Je ne sais pas du tout où j'irai. J'irai où Dieu m'enverra.
À la grâce de Dieu.
Voilà, c'est ça, exactement. Alors oui, c'est pas tout à fait vrai, parce que notre Église est habituée à gérer les situations personnelles de chacun. En ce qui me concerne, j'ai des parents âgés et mon frère étant résident à La Réunion, donc c'est un peu lointain. Je vais essayer de voir avec l'Église s'il y a moyen que je ne sois pas trop loin de mes parents. Mais sinon, voilà, après, j'ai pas d'autres contraintes majeures.
Vous nous disiez que vous faites vos études à Paris, vous êtes également en stage à Marseille. Alors évidemment, la journaliste locale que je suis ne peut pas s'empêcher de se demander comment vous avez atterri à Marseille.
Eh ben, j'ai atterri à Marseille parce que j'ai d'abord émis aucune contrainte vis-à-vis de la commission des ministères et du directeur des Master 2 qui gère l'affectation en stage, sur le lieu de stage. Je m'en suis remis à eux en pleine confiance. Et ils ont souhaité, d'après ce qu'ils m'ont dit, m'envoyer dans cette paroisse qui a une orientation très sociale. Hein. On est dans les quartiers nord, on voisine une grande précarité financière, spirituelle, humaine au sens large.
Avec un vrai ancrage dans le quartier, un vrai ancrage associatif notamment.
Avec un gros ancrage associatif. C'est une paroisse qui porte une association importante, Accueil et Rencontre, qui fait beaucoup d'aide à l'insertion, beaucoup de soutien, des cours de français, des cours d'informatique, de l'aide administrative.
Les jardins partagés aussi.
Il y a les jardins partagés, je vois que vous connaissez bien. Voilà. C'est aussi la paroisse qui met à disposition des locaux, et en l'occurrence, quel local ? C'est le temple, proprement dit, pour la distribution des Restos du Cœur. Donc voilà, il y a un vrai engagement. Et l'idée, moi j'ai plutôt un parcours en paroisse dans Paris ou dans l'Ouest parisien. Donc avec une population qui était pas forcément la même sur le plan social. Et je pense que la CDM, enfin je pense, c'est ce qu'ils m'ont laissé entendre, voulait me permettre aussi de rencontrer d'autres types de populations, ce qui est effectivement extrêmement enrichissant pour moi. Mais finalement, avec maintenant presque 3 mois de recul, pas si différent. L'humain reste l'humain.
Vous connaissiez Marseille? Vous avez découvert? Comment ça s'est passé?
Je ne peux pas dire que je connaissais. Étrangement, j'y suis né. Mais je n'y ai jamais vécu. J'y suis né parce que mon père était expatrié à ce moment-là, donc maman était rentrée pour accoucher. Étant originaire de Provence, elle avait de la famille sur Marseille. Donc voilà, je suis né à Marseille, un peu par hasard. Et après, je n'y ai jamais vécu. Donc je ne peux pas dire que je connais. En revanche, c'est vrai que quand j'ai su que j'allais faire mon stage à Marseille, je me suis dit, tiens, c'est étrange, j'ai commencé ma première vie à Marseille, je vais peut-être commencer la deuxième aussi à Marseille.
Alors, quelles sont vos missions exactement ici à Marseille auprès du pasteur Georges Fauché?
Alors les missions, pour l'instant, l'année se découpe en 2 parties. La première partie est plus une partie d'observation. Bon, alors évidemment, quand on a pas mal d'années d'activité professionnelle, l'observation, on a du mal à la faire sans bouger, sans vouloir interagir, sans vouloir mettre les mains dedans, si je puis dire. Mais donc, en fait, j'accompagne le pasteur dans l'essentiel de ses activités, de l'ensemble des activités qu'il mène pour la paroisse et pour les associations qui sont autour de la paroisse. Il a la gentillesse de m'inclure d'ailleurs dans beaucoup, beaucoup de ses activités. Et puis à partir du mois de février, donc deuxième partie de l'année, l'idée c'est de m'investir peut-être davantage dans une partie ou une autre des activités de la paroisse. Mais là, on n'a pas encore défini ce vers quoi ce sera.
Alors on va revenir un peu plus sur votre vocation de pasteur. Vous parlez de votre deuxième vie qui commence à Marseille. Alors vous avez, j'ose pas dire votre âge, je veux pas vous...
Bientôt 53 ans.
Voilà. Donc vous avez quand même une carrière professionnelle derrière vous, hein, en tant que commercial. Comment on passe de cette vie professionnelle assez intense à une vocation de pasteur? Comment s'est passée cette bascule, on va dire?
Alors je vais essayer de faire court parce que je suis pas sûr que les 27 minutes de l'émission vont suffire. J'ai eu une vie professionnelle très riche, très dense, très variée. J'ai commencé effectivement comme commercial et puis assez rapidement, j'ai eu des opportunités passionnantes de chef d'entreprise dans des structures jusqu'à une cinquantaine de salariés. Donc c'était extrêmement riche, extrêmement dense, extrêmement intense effectivement. Mais à un moment donné, j'ai constaté, en fait c'est pas à un moment donné, ça s'est fait au fil du temps, j'ai constaté une dégradation de la relation humaine dans le monde du travail, en tout cas tel que moi je le vivais, où je trouvais que les rapports humains étaient de plus en plus systématiquement construits autour d'un rapport de force. Qu'on soit entre collègues d'une même entreprise, ou collègues au même niveau, ou collègues avec un lien hiérarchique, ou que ce soit vis-à-vis de tiers à l'entreprise, client ou fournisseur. Voilà, j'ai vécu, moi, difficilement ce que j'ai ressenti comme étant une communication qui commençait par le rapport de force. Voilà. Moi, je suis ton patron, moi, je suis ton salarié, moi, je suis ton client, moi, je suis ci, moi, je suis là.
Et donc, la performance aussi, non?
Donc, si tu veux pas faire ci, machin, ça va pas. Et du coup, pour de la performance, pour toujours plus de performance, toujours plus de résultats, et avec en parallèle une considération de l'humain que j'ai trouvé de moins en moins présente. Dans les environnements dans lesquels j'ai travaillé. Et ça a commencé à un moment donné, effectivement, à me déranger, à faire que je me sentais plus à ma place. Je regrette rien. Je suis très heureux de ce que j'ai vécu. Je pense que dans tous les métiers que j'ai faits, dans des secteurs d'activité extrêmement variés, j'ai contribué finalement à pérenniser, voire à développer de l'emploi. Donc c'est aussi des revenus pour des familles. Enfin voilà, il y avait cette dimension-là pour moi qui était très importante. Et ça,
Vous vous sentiez utile.
Voilà, utile, et je suis très heureux d'avoir eu cette utilité. Sauf qu'à un moment donné, j'avais d'autres tensions qui venaient en moi, qui devenaient difficiles à vivre et à supporter. Alors après, il y a eu cette question de la bascule. Alors la question de la bascule, ça va vous paraître très surprenant, mais c'était en février 2019... je dînais chez une amie on n'avait pas forcément parlé de religion ou de choses comme ça, et de but en blanc elle me dit comme ça: mais tu voudrais pas être pasteur?
Vous aviez toujours gardé le lien avec la religion?
Oui, j'ai toujours eu une vie paroissiale. Oui, j'ai toujours été impliqué. J'ai même été membre de conseil presbytéral dans la paroisse où j'étais.
Ça faisait partie de votre vie depuis toujours?
Oui, tout à fait. J'avais pas... Oui, j'ai jamais quitté l'église, et ma foi a toujours été présente. Mais il y a eu cette question qui est venue de but en blanc, comme vraiment comme le cheveu sur la soupe. Et alors, dans les premiers jours, je disais à mon entourage que j'avais mis quelques jours à prendre la décision, mais en fait, c'était pas vrai, ça a été instantané. Ça a été comme une vérité qui m'éclatait à la figure, qui me tombait dessus. C'était, oui, évidemment, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Ça résonnait complètement en moi. D'ailleurs, la personne qui m'a posé la question s'en est rendu compte. Elle m'a dit, physiquement, tu t'es transformé. Il y a eu quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Alors après.
Vous y aviez jamais pensé avant?
Non.
Jamais. C'est juste cette parole de votre ami qui...
C'est un déclencheur, ouais, tout à fait. C'est surprenant, moi j'ai été le premier surpris. C'est très étrange. Alors, du coup, les gens me parlent souvent d'une vocation tardive. J'ai réfléchi à cet aspect-là et pour moi, en fait, je pense que la vocation, elle est là depuis toujours. C'est pas une vocation tardive que je vis.
Elle était cachée.
C'est une prise de conscience tardive, une révélation tardive. C'est mon apocalypse à moi. mais oui, là, en fait, il y a toujours eu un truc. Ça a toujours été là. Il y a plein de petites anecdotes au fil de ma vie qui m'ont, quand j'y repense avec le recul, me font comprendre que c'était là au fond de moi.
Et votre entourage, comment il a réagi? Parce que j'imagine que parfois, quand on fait le choix, comme ça, un peu tardivement, de s'orienter vers la mission de pasteur, on peut se dire mais c'est de la folie, mais dans quoi tu t'engages, non? Il n'y a pas eu un petit peu de ça?
Plutôt beaucoup de gens qui m'ont dit mais qu'est-ce que c'est courageux? Bon, ce que je ne comprenais pas bien au départ, parce que c'était une telle évidence pour moi que je voyais pas où était le courage. Pour moi, le courage, il est d'affronter une peur, d'affronter quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Mais quand on répond juste à ce qui nous tire, ce qui nous pousse, ce qui nous élève, à tout ce qui nous fait avancer, je voyais pas de courage. Bon, avec quelques années de recul dans les études, je comprends peut-être plus la notion de courage. C'est quand même un cheminement particulier. Tant sur le plan purement académique que sur le plan personnel.
Puis repartir à zéro après avoir eu une longue carrière derrière soi, c'est quand même, oui, il y a quand même un certain courage, hein, on peut le dire quand même. Tout le monde n'a pas ce courage-là de repartir à zéro, vous voyez,
Je l'entends, mais j'ai pas du tout ce sentiment de repartir à zéro. Pour moi, tout ce que j'ai vécu avant va nourrir mon ministère. Tout ce que j'ai vécu dans les relations humaines, dans tous les niveaux, le fait de connaître finalement la vie de la grande majorité de nos concitoyens, croyants ou non croyants, pour l'avoir partagé, pour l'avoir vécu avec eux, je pense que ça va nourrir aussi mon ministère. Donc j'ai pas ce sentiment de repartir de zéro, mais je comprends ce que vous voulez dire. Évidemment, oui, il y a une forme de, on repart pour une. Je l'ai dit aussi quelque part quand je pars une deuxième vie. C'est comme si je remettais les compteurs à zéro, donc j'entends aussi cette idée-là. Mais pour moi, il y a quand même une continuité aussi.
Pour vous, c'est finalement une suite où votre expérience passée en entreprise va constituer un peu un terreau, une certaine richesse pour votre future mission aussi de pasteur qui va accueillir beaucoup de réalités humaines aussi.
Ben, je pense que ça va m'aider sans doute à comprendre les personnes que je vais rencontrer, les difficultés qui pourront m'être exprimées, Voilà, je sais ce que c'est que d'avoir travaillé toute la semaine durement, d'avoir rencontré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans le monde du travail, et puis de se retrouver le dimanche matin au culte, et voilà, et quelles sont les attentes qu'on a à ce moment-là. Alors elles sont propres à chacun, hein, ça c'est la singularité individuelle qui se manifeste et qui est merveilleuse, qu'il ne faut surtout pas effacer, mais voilà, ayant pu vivre un peu cela, je pense que je serais... Voilà, en tout cas, moi, ça m'aidera. Je ne dis pas que des gens qui ne l'auraient pas vécu ne sont pas capables de l'entendre, mais moi, ça m'aidera certainement à échanger, à partager, à comprendre les personnes qui voudront me rencontrer ou que moi-même, j'aurais à cœur d'aller rencontrer.
Alors, je vous propose d'écouter tout de suite un morceau de gospel que vous avez choisi, qui s'appelle « Baba Yétou » de Christopher Tin, si je ne me trompe pas. On l'écoute tout de suite, on en parle juste après.
Makosa yetu, hey, amanda sotu na wasa mwe.
Nous sommes sur RCF avec Didier Hoffmann qui se prépare à devenir pasteur. Il est actuellement à la paroisse de l'église protestante unie de France de Vitrolles, Marseille Nord. Alors, c'est vous qui avez choisi cette chanson. Alors, avant qu'on continue à parler de votre parcours, pourquoi vous avez choisi cette chanson? Vous avez voulu la partager à nos auditeurs?
Je l'ai découverte complètement par hasard il y a quelques années de ça. Et elle m'a beaucoup touché d'abord parce que je la trouve très très belle. Les paroles qu'on comprend pas, ce sont les paroles d'une autre père, en Swahili. Et je trouve qu'elle, du coup, elle symbolise vraiment bien l'universalité du Christ. Voilà, c'est ça qui me touche dans cette chanson, c'est que mettre le Notre Père comme ça en chanson, en Swahili, on est dans ouais, ce qui vraiment est l'universalité du Christ. Je me répète, je suis désolé, j'ai pas trouvé mieux, mais voilà.
En tout cas, merci de nous faire découvrir, à nos auditeurs aussi des nouveautés ou des chansons qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. C'est toujours un plaisir. Alors, avant d'écouter Christopher Tin, on parlait de la réaction de votre entourage et vous aviez envie de revenir sur la réaction de vos enfants, je crois.
Oui, de mon fils aîné en particulier, parce que c'était très très touchant et très étonnant dans les jours qui ont suivi ma prise de décision, ma révélation, comme je disais. J'ai dîné avec lui et je lui ai fait part de mon projet. Nous étions tous les deux en tête à tête. Et à l'issue du dîner, il est reparti, il est rentré chez lui et il avait 19 ans. Donc il est reparti chez sa maman. Hein, je suis divorcé. Il m'a envoyé un SMS quelques minutes après être rentré chez sa maman et dans lequel il me disait, alors en substance au début, bon désolé papa, j'ai pas beaucoup réagi quand tu m'as fait part de ton projet. Et là, maintenant, je vais vous le citer mot à mot parce que c'est gravé dans ma mémoire. Il a écrit « Mais à bien y réfléchir, ça crève les yeux. Tu aurais dû faire ça depuis longtemps. » 19 ans. Lui, ça lui crevait les yeux. Moi, j'avais rien vu.
On dit souvent que les enfants perçoivent des choses hein, chez leurs parents. Bah, là, on a l'exemple. Ça a dû vous toucher, j'imagine.
Énormément. Bah, rien que d'y repenser, ça. J'avoue que j'ai un peu d'émotion à le réévoquer comme ça, à le partager comme ça. Parce que oui, c'est très très fort, bien sûr.
Alors on revient sur la mission de pasteur, hein. C'est vrai qu'on est dans une société numérique qui se développe de plus en plus, on pense à l'intelligence artificielle, une société souvent décrite comme déchristianisée. Comment vous abordez cette mission de pasteur aujourd'hui où finalement les chrétiens sont un peu réduits à une portion congrue?
Ah, ça c'est une vraie question. Ben, je pense que, alors il y a les chrétiens, mais il y a les croyants en fait déjà. Il y a les croyants qui doivent être capables de s'entendre pour moi. Vous parlez d'aborder la mission. J'ai vraiment envie, quand je serai au début de mon ministère, de prendre contact avec les autres communautés qui seront sur le territoire où je serai installé, qu'elles soient chrétiennes ou non chrétiennes.
Ça sera la première chose que vous ferez?
Oui, j'ai vraiment envie que ce soit une des premières choses. Parce que pour moi, c'est important. Je ne me vois pas prêcher tous les dimanches l'amour de Dieu et pas être capable d'aimer mon prochain, y compris si il n'a pas la même confession ou la même religion que moi. Alors après, évidemment, ça ne dépendra pas que de moi. Ça dépend aussi de la volonté des autres de vouloir échanger, partager avec moi. Mais je pense que dans ce monde que vous avez décrit, qui se déchristianise, voire qui se décroyantise, je ne sais pas si ça peut se dire.
Oui, bah disons ou du moins qui croit plus en l'intelligence artificielle.
Voilà, exactement.
Quand un père créateur. Hein.
Et puis on entend tellement souvent aussi, oui, mais regarde les religions, toutes les guerres que ça fait. Non, c'est pas les religions, c'est ce que les hommes en font, les humains en font, des religions qui font les guerres. Mais les religions en elles-mêmes, je pense qu'elles partent toutes globalement d'amour. Soyons capables de le montrer, soyons capables de le vivre, de le partager. Et à ce moment-là, on sera capable de le vivre aussi avec nos propres communautés. Et en tout cas, pour moi, ça me paraît important pour pouvoir le prêcher régulièrement.
Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette mission de pasteur? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus aussi?
La relation humaine. La relation humaine, je pense qu'il y a un autre élément qui sera au cœur de ma vie de pasteur, ce sera la visite. La visite aux paroissiens, la visite, la rencontre avec toutes les personnes qui voudront être écouté, être entendu, échanger, partager. Je trouve ça incroyablement enrichissant. Le ministère pastoral, je pense, nous donne une chance incroyable de faire en sorte que beaucoup nous parleront en confiance, naturellement. Et ça, c'est très précieux, que les gens s'expriment avec sincérité et en confiance. Et ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Essayer de remettre vraiment... c'est aussi ça le sens pour moi de mon engagement aujourd'hui, c'est de remettre l'humain au cœur de mes priorités, au cœur de ma vie. Avant le financier, avant l'informatique, avant le numérique, avant tout ça. C'est vraiment mettre l'humain au cœur du projet.
Et quelles sont les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui justement sur ce chemin de la vocation de pasteur, selon vous, des difficultés auxquelles vous serez vigilant justement ?
Ah ben, il y a beaucoup d'attentes. Je sais en tout cas dans notre église, il y a des paroisses qui sont en vacances pastorales, qui ont pas de pasteur, donc il y a beaucoup d'attentes d'avoir un pasteur. Et puis quand on a le pasteur, on voudrait qu'il soit comme ci, on voudrait qu'il soit comme ça, on voudrait qu'il apporte ci, on voudrait qu'il apporte ça. Je parle des pasteurs, mais j'imagine que c'est pareil dans l'église catholique, et qu'elle soit romaine ou orthodoxe. Enfin, je pense que toutes les confessions, il y a ces attentes, et on voudrait que voilà l'ecclésiastique, pour prendre un terme un peu générique, soit tel qu'on l'imagine. Voilà. Et forcément, on ne peut pas être ça. Donc, il va falloir composer avec tout ça. Il va falloir accepter de ne pas forcément répondre à toutes les demandes. Mais c'est une belle aventure. C'est un beau challenge. Et puis, ça peut être apporter autre chose. Même si on n'apporte pas ce qui est attendu, on peut apporter autre chose. Après, ça ne veut pas dire non plus se mettre en opposition. Ne pas apporter ce qui est attendu, c'est... pas tout ce qui est attendu. On est dans une... Enfin, l'Église protestante unie a quand même un système de fonctionnement qui est structuré. On a une liturgie, on est en train de... On vient de tester là de... On commence, pardon, à tester une nouvelle liturgie commune aux luthériens et aux réformés. Elle a été diffusée officiellement lors des synodes régionaux du mois de novembre. Donc voilà, donc il y a un cadre, entre guillemets, commun. Mais après, il y a la personnalité des pasteurs et il y a la personnalité des paroisses. Et il faut que tout ça arrive à matcher, à s'entendre. Donc, et ça revient à ce que je disais, c'est de l'humain avant tout. C'est faire fonctionner tous ces humains. Parce que, pasteur ou pas pasteur, je reste avant tout un homme, un être humain, et avec mes défauts, avec mes faiblesses, et puis aussi peut-être avec, j'espère, avec quelques forces.
Et sur le stage que vous vivez actuellement à Marseille-Nord, la paroisse de Georges Fauché, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans les missions que vous effectuez ?
Eh ben, vous allez dire que je suis un peu monomaniaque sur le côté humain, mais c'est ça. C'est une paroisse qui est extrêmement ouverte à l'humain. Elle n'est pas du tout, alors pour le coup, elle n'est pas du tout communautaire, entre guillemets, au sens d'un refermement communautariste. Alors je ne dis pas que j'ai connu des paroisses qui l'étaient, hein, mais bon, il y a des paroisses où on est un peu plus peut-être dans l'entre-soi, sans pour autant être dans le rejet de l'autre. Là, c'est vraiment... Je vais employer une expression un peu basique, pardonnez-moi d'avance, mais c'est open bar, quoi. C'est tout le monde est bienvenu. Il y a une animatrice spirituelle dans la paroisse qui monte des parcours spi où on se retrouve à parler, comme je le dis, avec une théologie du cœur, mais avec des musulmans, avec des non-croyants, avec des chrétiens, catholiques, protestants. C'est merveilleux.
C'est merveilleux. Ça qui vous inspire.
Ah, c'est très inspirant, ouais, tout à fait.
Alors l'émission se termine. Et vous avez un petit passage biblique à nous partager. On vous écoute.
Oui, c'est un verset qui m'accompagne depuis toujours. Il a été écrit en dédicace dans le Nouveau Testament que mon grand-père, qui était pasteur, m'avait offert lors de ma confirmation. Et je le trouve très... Enfin, en tout cas, il me parle et je vous le livre tel quel. Donc, il est issu de la première épître de Pierre, au chapitre 4, c'est le verset 10. « Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de la grâce. » Vous serez ainsi de bons intendants de la grâce si diverse de Dieu.
Et voilà une belle façon de terminer cette émission. Merci beaucoup Didier Hoffmann d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes pasteur stagiaire à la paroisse Vitrolles, Marseille-Nord, Terre Nouvelle. Et rendez-vous tout de suite sur rcf.fr pour réécouter et partager cette émission. À très bientôt sur RCF.